sur l'opposition entre la conception morale du temps et les rythmes naturels de travail, source de mécontentement. On ne peut comprendre la violence spirituelle qu'exerce le travail moderne sans prendre en compte toute cette histoire qui aboutit généralement à une opposition frontale entre la moralité de l'employeur et le bon sens de l'employé. Si intense qu'ait pu être leur conditionnement à la discipline horaire pendant leur éducation primaire, les ouvriers jugeront que l'injonction de travailler à une cadence constante, continuellement, 8 heures par jour, y compris quand il n'y a rien de concret à faire, défie tout sens commun. Et ils seront particulièrement excédés par les tâches factices qu'on leur demande d'accomplir pour la forme. Je me rappelle très bien mon tout premier job, plongeur dans un restaurant italien en bord de mer. J'avais été embauché au début de la saison avec deux autres adolescents. Naturellement, la première fois qu'il y a eu un vrai coup de feu, on a décidé d'en faire un jeu. Déterminé à prouver qu'on était les plongeurs les plus héroïques de tous les temps, on a mis nos forces en commun et on s'est transformé en une machine d'une efficacité foudroyante, produisant en un temps record une gigantesque pile d'assiettes rutilantes. Après quoi, fiers de notre performance, on a levé le pied 5 minutes, le temps peut-être de s'offrir une petite pause clope ou de grignoter un scampi. C'est là que le patron a surgi, nous demandant ce qu'on foutait là à se prélasser comme ça. « C'est pas mon problème qu'il n'y ait pas de vaisselle sale pour l'instant. Je vous paie pour bosser. Vous pourrez faire les ouaves pendant votre temps libre. Allez, au boulot. » « Qu'est-ce qu'on doit faire ?»« Allez chercher de la paille de fer et récurez-moi ces plaintes. » « Mais on l'a déjà fait, ça. » « Eh bien, recommencez !» Il va de soi qu'on a retenu la leçon. Pendant tes heures de travail, ne sois surtout pas trop efficace. Cela ne te rapportera rien, pas même un hochement de tête grognon en signe de reconnaissance. Nous n'en demandions pas davantage. Au contraire, pour ta peine, tu écoperas de tâches débiles qui visent uniquement à te maintenir occupé. Comme nous l'avons découvert, être contraint de faire semblant de travailler, c'est la pire des déchéances. Car il était impossible de se tromper sur la nature de la chose. C'était juste de l'humiliation, une pure démonstration de pouvoir pour le pouvoir. En réalité, que nous récurions les plaintes ou non n'avait aucune importance. Mais tandis que nous faisions mine de le faire, à chaque minute, nous sentions par-dessus notre épaule le regard jubilatoire de ce tyran de cour d'école, un tyran qui, en l'occurrence, avait de son côté la force de la loi et des usages. Inutile de dire que, au coup de feu suivant, on a pris tout notre temps pour abattre le boulot. Les raisons pour lesquelles les salariés méprisent les occupations oiseuses de ce genre sont aisées à comprendre. Et j'ai reçu de nombreux témoignages insistants sur le dégoût qu'elles produisent. L'histoire de Mitch, ancien ouvrier agricole dans un ranch du Wyoming, nous offre un exemple de ce qu'on pourrait appeler le travail factice de type traditionnel. Travailler dans un ranch, explique-t-il, c'est dur mais gratifiant. Si vous avez la chance d'avoir un employeur sympa, le rythme tendra à alterner joyeusement entre gros coups de bourre et petits ouvrages à droite à gauche. Lui n'a pas eu cette chance. Son patron était un membre historique de la communauté très respecté, doté d'une sorte de statut régional au sein de l'Église mormone. Chaque fois que les ouvriers se retrouvaient désœuvrés, ils tenaient par principe à ce qu'ils s'occupent à ramasser des cailloux. Mitch. Il nous lâchait dans un champ au hasard. Là, on devait ramasser tous les cailloux qu'on pouvait trouver et les rassembler en tas. L'objectif, nous disait-il, c'était de déblayer le terrain pour que les fourches du tracteur ne butent pas sur des pierres. J'ai tout de suite décrété que c'était de la connerie. Déjà, ces champs avaient été labourés plein de fois avant mon arrivée. En plus, avec les durs hivers qu'on a là-bas, il allait y avoir des soulèvements de terrain à cause du gel, et ça ferait remonter encore d'autres pierres à la surface. Mais bon, cela maintenait son personnel occupé. Et puis cela nous donnait une bonne éthique de travail, blablabla. En fait, cela voulait dire obéissance, un principe tenu en très haute estime dans la foi mormone. Ok, cause toujours. Il faut savoir qu'un bout de terre d'environ 10 mètres carrés contenait des centaines de pierres de la taille d'un poing, ou plus grosses encore. Je me revois un jour, tout seul dans un champ à ramasser des cailloux. Honnêtement, je m'étais donné du mal pendant plusieurs heures. Je me demande bien pourquoi, même si je voyais parfaitement l'absurdité du truc. C'était éreintant. Quand le vieux Schnock est venu me chercher pour m'emmener faire autre chose, il m'a dit en jetant un regard désapprobateur sur ma pile « Dis donc, tu t'es pas trop foulé !»« Ouah ! Merci, gars. C'était pas assez humiliant de se taper un boulot ingrat juste pour le principe ? Il fallait en plus qu'il se plaigne que c'était mal fait, malgré tous mes efforts, les heures passées à ramasser à la main sans brouette ni rien. Le pire, c'est que personne n'est jamais allé récupérer les pierres que j'avais empilées. À compter de ce jour, elles sont restées en tas dans le champ, exactement à l'endroit où je les avais laissées, et je ne serais pas surpris qu'elles y soient toujours. J'ai haï cet homme, chaque minute, jusqu'à sa mort. Le récit de Mitch met en lumière l'élément religieux, cette idée que la soumission respectueuse à une tâche assignée par quelqu'un d'autre, même si elle est stupide, est une forme d'autodiscipline morale qui vous rend meilleur. Bien entendu, c'est une variante moderne du puritanisme, et elle ne fait qu'accentuer l'exaspération que produit la moralité perverse, selon laquelle être oisif, c'est voler du temps à autrui. Malgré l'humiliation, Mitch ne pouvait s'empêcher d'envisager toute activité, y compris la plus oiseuse qui fût, comme un défi à surmonter. En même temps, il bouillait de rage en se voyant piégé dans ce jeu de faux-semblants qu'il n'avait pas inventé et qui était conçu de telle sorte qu'il ne pourrait jamais le gagner. Être forcé à ne rien faire du tout, c'est presque aussi abrutissant qu'être forcé à s'agiter sans but. En un sens, c'est pire. Pour la même raison qui explique que n'importe quel prisonnier préférera passer un an enchaîné à ses codétenus à casser des pierres plutôt que de rester tout seul dans sa cellule à fixer le mur. Il arrive que des gens très riches louent les services d'une statue humaine qui ornera leur jardin pendant une fête. Certains vrais jobs n'en sont pas très loin. S'ils n'exigent pas une immobilité aussi totale, ils durent en revanche plus longtemps. Clarence. J'ai bossé pour une grosse boîte de sécurité internationale comme gardien de musée. Dans l'un des endroits où j'ai été envoyé, il y avait une salle d'exposition inutilisée de manière quasi permanente. Mon boulot consistait à surveiller cette pièce vide pour m'assurer que personne ne touche le... le rien qu'elle contenait ou n'y mette le feu. Pour garder mon esprit affûté et mon attention aux aguets, on m'interdisait toute forme de stimulation mentale, livres, téléphones, etc. Concrètement, comme aucun visiteur ne mettait jamais les pieds dans cette salle, je restais assis 7h30 par jour à compter les mouches en attendant un hypothétique déclenchement de l'alarme incendie, auquel cas je devais me lever calmement et sortir. C'était tout. Dans une telle situation, et je le sais car j'en ai connu de semblables peu ou prou, on ne peut s'empêcher de faire des calculs. En cas d'incendie, quel serait mon temps de réaction supplémentaire si j'étais en train de lire un roman ou de jouer au solitaire? 2 secondes? 3? Ça, c'est en supposant que je ne réagirais pas en fait plus rapidement puisque mon cerveau n'aurait pas été transformé en bouillie liquide par l'ennui comme en ce moment. Bon, admettons que ce soit 3 secondes. Maintenant, combien de secondes de vie m'ont été volées pour éliminer ce prétendu délai de 3 secondes? Essayons de calculer ça. J'ai un peu de temps devant moi de toute façon. 27 000 par journée de travail, 135 000 par semaine, 3 375 000 par mois. Sans surprise, les personnes affectées à un poste d'un tel vide sidéral y restent rarement plus d'un an, à moins que quelqu'un dans les étages ne les prenne en pitié et ne leur donne quelque chose d'autre à faire. Clarence a tenu 6 mois, à peu près 20 millions de secondes, puis il a pris un job payé moitié moins, mais qui lui offrait une once de stimulation intellectuelle. Ce sont évidemment des exemples extrêmes. Mais la moralité du Tu bosses pour moi et si bien intégré que nous avons presque tous appris à regarder le monde avec les lunettes du patron de restaurant, au point que même les usagers des services publics sont encouragés à s'imaginer en chef et à s'indigner si des fonctionnaires, par exemple les employés des transports, se relâchent ou lambinent sans parler de prendre du bon temps. Wendy, qui m'a envoyé un message retraçant la longue histoire de ses jobs les plus futiles, note que beaucoup d'entre eux n'existent que parce que certains employeurs ne peuvent accepter la simple idée de l'astreinte. Fondamentalement, payer quelqu'un pour qu'il soit là si on a besoin de lui. Wendy. Exemple numéro 1. Quand je bossais comme réceptionniste pour un petit magazine dans la presse spécialisée, on me confiait souvent des trucs à faire pour m'occuper en attendant que le téléphone sonne. Pas de problème, sauf que c'était presque toujours des tâches à la con. Il y en a une dont je me souviendrai toute ma vie. Une des nanas du service pub est arrivée devant moi et a balancé des milliers de trombones sur mon bureau en me demandant de les classer par couleur. J'ai cru qu'elle plaisantait, mais non. Je me suis exécuté pour me rendre compte un peu plus tard qu'elle continuait à les utiliser sans prêter la moindre attention à leur couleur. Exemple numéro 2. Ma grand-mère, qui avait un peu plus de 90 ans, vivait toute seule dans un appartement à New York, mais elle avait besoin d'une aide. On a donc embauché une très gentille dame qui est venue habiter à ses côtés et veiller sur elle. En gros, elle était là au cas où ma grand-mère tombait ou avait un problème quelconque, ainsi que pour les courses, le ménage, etc. Mais quand tout allait bien, elle n'avait à peu près rien à faire, ce qui ne manquait pas d'exaspérer ma grand-mère. « Elle reste assise là toute la journée », se plaignait-elle. On lui expliquait que c'était justement ça, l'idée. Pour que ma grand-mère puisse sauver la face, on a demandé à la dame si elle ne voyait pas d'inconvénient à mettre de l'ordre dans les placards quand elle n'était pas occupée à autre chose. Elle a accepté bien volontiers. Mais c'était un petit appart. Aussi, en deux temps trois mouvements, tous les placards et commodes ont été impeccablement rangés et elle s'est de nouveau retrouvée désœuvrée. Ce qui a encore rendu ma grand-mère totalement dingue. Au bout du compte, la dame a démissionné. Ma mère s'est étonnée. Mais je ne comprends pas. Ma mère a pourtant l'air en pleine forme. La nana a eu cette réplique restée célèbre dans la famille. Ah, c'est sûr, elle, elle est en forme. Moi, j'ai maigri de 7 kilos et je perds mes cheveux. Je ne peux plus la voir. Ce n'est pas tant que c'était un job à la con, mais elle trouvait profondément avilissant d'être obligée de s'inventer autant de tâches débiles juste pour faire semblant de s'occuper. Je pense que c'est un problème classique pour ceux qui travaillent avec des personnes âgées, dans les jobs de babysitting aussi, mais de manière très différente. J'étais un peu surpris qu'une personne née dans les années 1900 ou 1910 ait assimilé une telle attitude. Et j'ai demandé à Wendy si sa grand-mère n'avait pas été chef ou employeur au cours de sa vie professionnelle. Wendy ne pensait pas que ce fût le cas, mais elle a découvert par la suite que, longtemps auparavant, sa grand-mère avait brièvement aidé à gérer une chaîne d'épicerie. Les personnes âgées, les enfants, oui, mais pas que. Une fois identifiée la logique, il est facile de comprendre comment des jobs, des carrières et même des secteurs tout entiers finissent par s'y conformer. Cette logique, qui aurait été partout considérée comme totalement extravagante il n'y a pas si longtemps, s'est aussi répandue à travers le monde. Ramadan Al-Sokari est un jeune ingénieur égyptien qui travaille au Caire. Ramadan. Je suis diplômé d'une des meilleures écoles d'ingénieurs de mon pays, section électronique et communication. La matière principale que j'ai choisie était ardue, et tous les étudiants s'imaginaient entamer de grandes carrières dans la recherche et la conception de nouvelles technologies. En tout cas, c'est ce que nos études nous faisaient miroiter. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Le seul boulot que j'ai pu trouver après l'obtention de mon diplôme, c'est un poste d'ingénieur contrôle en chauffage, ventilation et climatisation dans une entreprise semi-publique. Sauf que j'ai immédiatement compris que je n'allais pas être ingénieur, mais plutôt, disons, technicien bureaucrate. car c'est le seul truc qu'on fait ici. Brasser de la paperasse, des checklists et des formulaires. Tout le monde se contrefiche de ce à quoi on s'occupe, du moment que les papiers sont bien remplis. La description officielle du poste, c'est « Diriger l'équipe d'ingénieurs et de techniciens chargés des opérations de maintenance préventive et de maintenance d'urgence » et « Concevoir de nouveaux systèmes de régulation pour optimiser les performances ». En vrai, ça se résume à vérifier rapidement que tout fonctionne bien à mon arrivée, puis ingurgiter ma ration quotidienne de papelard et de rapports de maintenance. N'y allons pas par quatre chemins, la boîte a juste besoin d'une poignée d'ingénieurs qui se pointent chaque matin pour s'assurer que la clim fonctionne, puis restent dans le coin afin d'intervenir en cas de problème. Mais évidemment, les responsables ne veulent pas présenter les choses de cette façon. Ramadan et les membres de son équipe pourraient tout aussi bien taper le carton toute la journée, ou même, pourquoi pas, travailler à ces inventions dont ils rêvaient quand ils étaient étudiants, tant qu'ils sont prêts à bondir à la moindre panne. Au lieu de cela, la direction préfère inventer d'innombrables procédures de contrôle, protocoles et listes de cases à cocher pour les maintenir occupés 8 heures par jour. Heureusement, personne ne s'en soucie vraiment au point d'aller vérifier s'ils s'exécutent. Ramadan a eu vite fait de déterminer quelles étaient les tâches nécessaires et celles qu'il pouvait zapper sans qu'on s'en rende compte, et il a pu utiliser le temps ainsi libéré pour satisfaire ses nouvelles passions, le cinéma et la littérature. Cependant, tout cela lui laisse un profond sentiment de vide. Ramadan. Pour moi, être obligé de me lever tous les jours pour aller faire un boulot que je trouvais absurde s'est révélé épuisant psychologiquement. L'expérience m'a complètement déprimé. Progressivement, j'ai perdu tout intérêt pour mon travail. Je me suis mis à regarder des films et à lire des bouquins pour combler le vide. Désormais, je m'éclipse même plusieurs heures par jour sans que personne remarque quoi que ce soit. Là encore, on pourrait juger que la situation, toute exaspérante qu'elle soit, n'est pas si terrible, d'autant plus que Ramadan a découvert un moyen de manipuler le système. Dans ce cas, pourquoi est-il aussi accablé par le simulacre et la futilité de tout le processus? Pourquoi ne peut-il pas voir cela comme une juste réappropriation des heures de son temps qu'il a vendu à l'entreprise? On dirait que nous en sommes revenus à notre question initiale. Mais nous voilà maintenant bien mieux armés pour y répondre. Si le plus détestable dans tout job surveillé de près est d'avoir à faire semblant de travailler pour apaiser les soupçons d'un patron trop vigilant, des boulots comme celui de Ramadan ou celui d'Eric reposent entièrement sur ce principe. Certes, ils sont infiniment moins pénibles que celui qui consiste à nettoyer à la paille de fer pendant des jours, cela m'a paru des jours, des plaintes déjà immaculées. Ils sont généralement salariés et non payés à l'heure, et bien souvent, on n'a même pas un supérieur collé à ses basques. Mais ce qui est démoralisant en soi, c'est d'être obligé de participer à ce jeu de faux-semblants inventé par quelqu'un d'autre, un jeu qui n'est qu'une manière d'imposer un pouvoir. C'est pourquoi, en dernière analyse, ces cas ne diffèrent pas fondamentalement de celui des récureurs de plaintes. Quand le métier censé donner un sens à votre existence ne se résume plus qu'au pire aspect de tout job salarié, il n'est pas étonnant que votre âme se révolte. C'est une attaque directe contre ce qui vous rend humain.